médicaments existants et il est important de trouver des alternatives thérapeutiques. Selon le directeur général de l'OMS, il faut accroître sans tarder les investissements dans la recherche des médicaments qui traitent les infections résistantes aux antibiotiques.
L'une de ces infections, c'est la tuberculose.
Effectivement, le rapport parle de la tuberculose pharmaco-résistante qui tue chaque année près de 250 000 personnes. Selon le docteur Mario Raviglione, directeur du programme mondial de l'OMS dans la lutte contre la tuberculose, la recherche sur cette maladie souffre d'un grave déficit de financement. En plus de 70 ans, seuls deux nouveaux antibiotiques destinés au traitement de la tuberculose pharmaco-résistante ont été mis sur le marché. Toujours selon lui, pour contribuer à la lutte contre cette maladie, il faut instamment débloquer plus de 800 millions de dollars par an.
Vivement donc que les partenaires techniques et financiers de l'OMS se mobilisent. Merci Georges.
Sentez votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions en début de ce programme, cette semaine nous parlons de la fièvre typhoïde. Il s'agit d'une maladie causée par les bactéries présentes dans les selles et l'urine des personnes infectées. Le virus se contracte après avoir consommé des aliments ou des boissons qui ont été manipulés par une personne infectée ou par de l'eau contenant lesdites bactéries. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ 17 millions de cas de fièvre typhoïde sont recensés chaque année. Dans la plupart des pays africains où l'approvisionnement en eau potable est limité, les cas de typhoïde sont assez fréquents. Pour en savoir davantage sur la maladie, notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina, a rencontré le docteur Arsène Kalenga. Tout d'abord, il explique les moyens de contamination de la maladie.
C'est une pathologie en fait qui se transmet directement à l'homme à partir d'un réservoir humain, c'est-à-dire que les germes de cette maladie se retrouvent spécifiquement chez l'homme. Généralement, la contamination peut se faire par ingestion d'aliments ou d'eau infectés par des déjections humaines qui contiennent une grande quantité de germes, ou alors par des personnes porteuses de germes qui ont manipulé ces aliments ou cette eau sans au préalable avoir eu à désinfecter, entre autres, leurs mains.
Quels sont les signes qui peuvent alerter une personne quand elle est victime de la fièvre typhoïde?
Le signe primordial, en fait, c'est la fièvre. Selon les différentes étapes de la maladie, on a une fièvre qui est rapidement progressive et qui intervient facilement, qui monte de 38 à 40 degrés. Et dans la phase d'état de la maladie, c'est une fièvre qui reste en plateau, donc quasiment en permanence autour de 40 degrés. Les autres signes accompagnateurs sont en général les signes patents. Ce sont des troubles digestifs qui peuvent, chez l'adulte, être sous forme de constipation, et on peut généralement avoir chez l'enfant une sorte de diarrhée qui est caractéristique par rapport à cela. Et dans la phase ultime de la maladie, avant d'arriver aux complications, on a un état de prostration du patient que l'on peut appeler par des termes caractéristiques d'un tophus lié à la fièvre typhoïde. Alors les complications, ça ce sont la phase ultime, on peut avoir des perforations typhiques. Comme je l'ai dit au départ, c'est une infection systémique en fait qui peut atteindre plusieurs organes vitaux. On peut avoir des perforations typhiques, ça c'est au niveau digestif, on peut arriver à des problèmes cardiaques, une sorte de myocardite, des encéphalopathies aussi, donc qui touche spécifiquement le cerveau. Et bien sûr, sans traitement, c'est une pathologie qui arrive dans 10 à 20% des cas à la mort.
Lorsqu'on constate tous ces symptômes, que faut-il faire immédiatement?
L'élément primordial, c'est de consulter, parce que ces signes arrivent dans un diagnostic différentiel avec plusieurs autres pathologies, dont le paludisme, et qui peuvent se manifester aussi de manière comme un syndrome pseudo-grippal. Et une automédication risquerait non seulement d'étouffer les signes, mais beaucoup plus de renforcer en fait l'attaque des germes au niveau de l'organisme. Donc l'idéal, c'est de consulter dès les premiers signes, de manière à ce que le traitement puisse être instauré le plus tôt possible. Et de ça dépend aussi le pronostic par rapport à l'évolution de la maladie.
Et comment éviter cette maladie?
C'est un problème de salubrité. Comme je l'ai dit, c'est une maladie quelque part à déclaration obligatoire au niveau global. Les portes d'entrée généralement sont liées à la salubrité, c'est-à-dire la promiscuité des populations, des points d'eau qui ne sont pas assainis, des évacuations des matières organiques qui ne sont pas bien canalisées, cela peut emmener à des contaminations à grande échelle, d'autant plus que l'on sait que dans nos milieux, ce sont des éléments importants liés à la salubrité qu'il faudrait prendre en compte. Mais est-il que, au-delà de ça, il y a les patients qui ont déjà souffert de fièvre typhoïde qui doivent être suivis pour se rassurer qu'ils ont correctement été suivis, se rassurer qu'il y ait de moins en moins de porteurs sains, parce qu'il y a des patients traités mais qui gardent encore la possibilité de contaminer les autres, soit les autres aliments ou les autres eaux, parce que ce sont des porteurs qui gardent toujours les germes en eux et qui n'ont toujours pas été éradiqués en fait complètement après leur traitement.
Et que doivent faire les personnes qui vivent dans l'entourage d'une victime de la fièvre typhoïde?
Le plus important, c'est de reconstituer des situations salubre autour de la personne, parce que le grand risque en fait, il est de que cette personne, même étant traitée, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisse continuer à porter le germe en elle. Et donc cette personne aura toujours la possibilité de transmettre la maladie, même en étant physiquement sain, quoi. Donc ce qu'il faudrait, c'est se rassurer que l'environnement de cette personne reste salubre et bien sûr, du point de vue clinique, assurer le suivi de ce patient pour être sûr qu'on n'a plus d'un inoculum important au sein de la personne qui puisse permettre la transmission de la maladie.
Comment soigne-t-on la fièvre typhoïde, docteur?
Alors, avant d'arriver là, je vais peut-être parler des facteurs pronostiques. Comme je l'ai dit, pour les facteurs qui emmènent rapidement en fait à la maladie, tout est lié à l'inoculum, donc la quantité de germes qui entre en contact avec la personne. Tout est lié au moment où on commence le traitement. Comme je l'ai dit, il faudrait que le traitement puisse être mis en place le plus tôt possible. Tout est lié à l'âge de la personne aussi et à l'état immunitaire de la personne. Donc les deux vont un peu de pair, parce que commencer une personne âgée a une capacité immunitaire qui décroît. De même, un enfant en très bas âge a une capacité immunitaire en croissance, donc il n'a peut-être pas encore atteint le summum pour se défendre. Et le traitement, en fait, il est purement médical. Il y a une gamme, une batterie d'antibiotiques qui peuvent être donnés et qui donnent des résultats qui sont palpables. Donc ce sont des résultats qui sont bons, parce que on peut arriver à soigner tous ces patients chez lesquels on a détecté cette pathologie sans laisser de séquelles quand ils sont pris en charge avant.
Comment s'assurer qu'on est complètement guéri de la fièvre typhoïde?
Alors, ça revient au suivi dont je parlais. Il y a des examens que l'on peut faire, entre autres des examens immunologiques, pour savoir si le taux de germes qu'on a eu à retrouver dans le sang est toujours croissant ou s'il a décru, pour dire que le patient a été guéri. Bien sûr, il y a les signes cliniques aussi qu'il faudrait suivre. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours une persistance dans ces tests sérologiques d'une positivité relative qui reste chez les patients même guéris. Donc il ne faudrait pas se fier nécessairement à cela pour dire que le patient n'a pas été guéri. C'est normal. Ce sont des germes qui se logent dans le système lymphatique, donc dans le système lymphatique de l'organisme, et c'est tout à fait normal qu'ils persistent pendant longtemps dans les tests qui seront faits au plus tard. Donc c'est un suivi régulier des examens de laboratoire pour être sûr que le patient a clairement été suivi.
Et est-ce que la fièvre typhoïde peut amener quelqu'un à la mort si elle est mal soignée?
Oui, si elle n'est déjà pas soignée, c'est sûr qu'elle peut emmener à la mort. Mal soignée, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'automédication peut en être une des causes, parce que le fait de traiter une autre pathologie qui se manifesterait exactement comme la fièvre typhoïde aura à étouffer les signes de la maladie, mais ne vont pas arrêter le processus pathologique en cours au niveau de l'organisme. Donc ce qui fait qu'une fièvre typhoïde mal soignée, oui, peut non seulement donner des séquelles importantes, entre autres, les plus importants que l'on a dans nos milieux, ce sont des perforations typhiques, donc des perforations intestinales, mais ça peut aussi mener à la mort en cas d'atteinte du cœur, en cas d'atteinte du cerveau et même de la moelle osseuse.
Nous remercions donc le docteur Arsène Kalenga qui était au micro de notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Fièvre continue accompagnée de maux de tête, douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation, ce sont là quelques signes fréquents de la fièvre typhoïde. Des symptômes qui néanmoins peuvent varier d'un patient à l'autre. Écoutons à présent une victime. Myriam Diedia de la RDC nous raconte son expérience au micro de notre correspondante Béro Matanda à Kinshasa.
Ça doit être une fois et je reconnais que j'ai souffert de la typhoïde.
Quels sont les malaises que vous ressentiez pendant cette maladie?
En fait, j'avais très mal. Je faisais plutôt des fortes fièvres. Et puis, j'avais aussi mal à la tête. Je suis allée à l'hôpital, on m'a examinée, on m'a dit que j'avais la typhoïde et la malaria. Et puis, bon, je me suis dit, la malaria, on est habitué à autre, mais la typhoïde, là, ça m'avait beaucoup dérangé, c'est un peu ça.
Et quel est le traitement que vous avez pris et c'était pendant combien de temps?
J'ai eu un traitement de 7 jours, si je ne me trompe pas. On m'a injecté un produit qu'on met à part de veine. C'est comme une perfusion, mais avec de petits flacons. Si ce n'est pas si fin, ça doit être cefabactam, quelque chose de ce genre-là. C'est comme ça, je passais le matin, à me donner, et puis les soirs, durant 7 jours. Et puis quand on vous donne là, vous ne savez pas vous déplacer directement. On vous demande de vous reposer jusqu'à ce que vous allez vous reposer durant 10 à 15 minutes, voire même 30 minutes. Et puis je pouvais partir au travail. Les soirs aussi, de même, quand je rentrais, on me donnait ça, et puis je me repose, puis je rentre à la maison.
Et après avoir souffert de cette maladie, vous avez pris de précautions pour éviter de retomber encore dedans?
Oui, de précautions, on dit de manger la nourriture bien préparée, d'éviter de manger aussi tout ce qui est exposé à la rue, de toujours se nettoyer le main avant de manger, mais sinon, prendre ce qui est bien préparé, bien conservé, ça nous épargne de la typhoïde.
La RDC est un pays ayant connu plusieurs épidémies de fièvre typhoïde. En 2012, dans les provinces du sud Ubangi, en décembre 2015, dans la province du Kwango, et entre septembre et octobre 2016, dans le Kwilu, pour ne citer que ces quelques cas. Comment expliquer la récurrence de la fièvre typhoïde en RDC? Notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouizi, a posé la question à Jean-Paul, un agent humanitaire. Il commence par nous parler des opérations menées par les ONG pour combattre les épidémies.
Nous faisons la sensibilisation de la population sur le lavage des mains pendant les 5 moments clés. Donc, avant de manger, il faut se laver les mains. Après avoir utilisé la latrine, il faut se laver les mains. Après avoir échangé les couches de l'enfant, il faut se laver les mains. Avant de préparer la nourriture, il faut se laver les mains. Et on demande aussi à la population d'utiliser l'eau potable. Si on doute de l'eau, il faut qu'on arrive à ce que cette eau soit bien bouillie et que aussi il faudrait utiliser les latrines hygiéniques parce que si on se met à déféquer un peu partout, c'est aussi l'objet de contamination de la population.
Alors comment appréciez-vous également les interventions d'autres organisations humanitaires?
Nous avons les clusters eau et assainissement qui nous aident aussi à identifier les cas, aussi à sensibiliser à toute occasion qu'on ait à contact avec la population locale. Le cluster, c'est une réunion de tous les intervenants. Nous nous réunissons dans les AJAS, donc dans les structures qui interviennent. C'est aussi un groupe qui fait le plaidoyer pour qu'on puisse avoir des partenaires qui peuvent aider à lutter contre cette maladie.
Alors, et puis, nous voudrions bien savoir comment combattre durablement cette fièvre typhoïde en République démocratique du Congo.
Pour combattre cette maladie, il fallait respecter les 5 moments clés de lavage des mains. Je l'ai cité tantôt. Il faut aussi utiliser les latrines hygiéniques. Donc, la défécation, il fallait qu'on puisse faire la défécation dans les latrines, donc éviter à déféquer à l'air libre.
Alors aussi dans cette partie du Nord Kivu, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face régulièrement quand vous voulez lutter contre cette maladie?
La première difficulté, c'est par rapport à l'approvisionnement à l'eau potable, parce que tout ce que nous disons, s'il y a lavage des mains, il faut qu'il y ait quand même l'eau potable. Il y a aussi l'utilisation de latrines hygiéniques. Nous allons voir qu'il y a encore certaines gens qui déféquent à l'air libre. Il y a aussi également les traitements aussi des cas. Il y a les traitements des cas et il y a d'autres malades qui se font passer comme comme maladie de fièvre typhoïde, alors que ça peut être autre chose.
Et enfin, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais pour pouvoir vous aider exactement à endiguer cette épidémie?
Actuellement, la population a droit à l'eau potable. C'est parmi les droits fondamentaux. Il fallait que le gouvernement congolais puisse fournir de l'eau potable à toute la population et surtout à la population urbaine. Parce que ici, à ville, nous avons le problème des sources qui ne sont plus potables parce qu'il y a la nappe phréatique qui est déjà polluée.
Nous remercions Myriam, la victime, et Jean-Paul, l'agent humanitaire, pour leur témoignage.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions sur la santé. Notre consultant, le docteur Amon Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons. C'est en France.
Bonjour docteur, je suis Santa Tembo, je réside à Kinshasa. Je vais savoir quelles sont les causes du diabète chez les enfants, parce que de plus en plus on remarque des cas de diabète auprès des petits-enfants. Je vais savoir quelles sont les causes de cette maladie auprès des petits-enfants.
Ce que je peux répondre à Santa Tembo, c'est que le diabète est un trouble dans la régulation du sucre dans l'organisme. Qui se passe se manifester par un excès de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Et très souvent chez l'enfant, ce diabète-là est un diabète de type 1, puisqu'il y a deux types de diabète, le diabète de type 1, le diabète de type 2. Le diabète de type 1 ou encore diabète maigre, le diabète de type 2 ou encore diabète gras. L'enfant va surtout être concerné par le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est surtout lié à une carence dans la production de l'insuline par le pancréas. L'insuline étant cette hormone qui va permettre l'assimilation du sucre par les cellules, la consommation du sucre par les cellules. Le diabète chez l'enfant doit absolument être détecté précocement. Sinon, on risque de se retrouver avec un enfant qui est déjà au stade d'acido-cétose diabétique et même au stade de coma diabétique, de coma acido-cétosique, et malheureusement un coma acido-cétosique, si rien n'est fait dans les meilleurs délais, et notamment l'apport rapide d'insuline par voie veineuse, l'enfant risque de décéder. Donc c'est très très important de pouvoir dépister assez rapidement le diabète chez un enfant, et pour le faire, il y a un certain nombre de signes d'alerte. Si vous avez par exemple un enfant qui boit beaucoup et urine beaucoup et a toujours soif, c'est pas normal. Cet enfant-là, si en plus il est fatigué et il perd du poids, je pense qu'il faut rapidement consulter un médecin pour pouvoir faire un test de dépistage glycémique à cet enfant, parce qu'il est peut-être en train de faire un diabète et il faut diagnostiquer précocement pour apporter un traitement assez rapide. Donc, en conclusion, pour répondre très simplement à Santa Tembo qui a payé de Kinshasa et qui voulait connaître les causes du diabète chez l'enfant. Très souvent, les causes du diabète chez l'enfant sont des causes, c'est le diabète de type 1, dont la cause génétique avait été évoquée à un moment, mais qui n'a pas eu sa confirmation. Mais on pense que les enfants qui souffrent du diabète ont à la fois une prédisposition génétique et un facteur environnemental comme une mauvaise alimentation, une alimentation trop, trop sucrée. Voilà ce que je pourrais répondre à Santa Tembo.
Je suis malade, docteur. Je souffre de la sinusite. Que dois-je faire pour guérir?
Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans un premier temps, les sinus sont des cavités osseuses qui sont situées au niveau des os du visage et notamment à l'arrière des fosses nasales et qui communiquent d'ailleurs avec ces fosses nasales-là. La sinusite va être l'inflammation, l'infection de la muqueuse de ces cavités osseuses, en tout cas de la muqueuse des sinus. Très souvent, ce sont les sinus maxillaires et le sinus frontal qui vont très souvent être touchés par une infection qui peut être virale, une infection qui peut être bactérienne. Les causes de ces sinusites sont souvent en dehors de ces causes virales et bactériennes, des causes également allergiques. Le fait d'être prédisposé à des rhinites allergiques vont être le facteur de risque de sinusite. On a aussi des problèmes de déviation de la cloison nasale, on a aussi des problèmes d'infection dentaire, d'abcès dentaire. Et des personnes qui font régulièrement des rhinopharyngites sont souvent exposées à faire des sinusites. Pour cet auditeur qui voudrait savoir comment se débarrasser de sa sinusite, moi je lui conseille deux choses. La première chose, c'est que cet auditeur doit consulter un médecin pour que le médecin puisse faire un diagnostic précis de cette sinusite-là et des causes de cette sinusite-là pour mettre en place un traitement adéquat. Mais dans l'attente, je peux déjà le rassurer en lui faisant comprendre que près de 75% des sinusites, notamment des sinusites virales, vont guérir toutes seules au bout de quelques semaines. Mais cet auditeur peut aussi accélérer la guérison de sa sinusite en faisant des lavages de nez fréquents, qu'il lave fréquemment son nez avec du sérum physiologique tout simplement, et en faisant des inhalations par des vapeurs d'eau salée, à savoir qu'il met un peu de sel dans de l'eau qu'il va chauffer et il va essayer d'inhaler dans cette eau salée-là, et ça permet de bien soulager la sinusite en bien dégageant les fosses nasales et ça permet d'accélérer la guérison du moins de la sinusite. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur.
Bonjour docteur, je suis Papi, je suis à Kinshasa. Au fait, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir mal aux os, donc je dirais plus du côté du bras gauche. Alors, je suis AS, alors je voulais savoir, est-ce que c'est dû à... Est-ce qu'il y a de l'anémie dans le AS ou pas du tout?
Ce que je peux répondre à Papi, c'est que, vu sa question, je pense qu'il souffre d'une drépanocytose hétérozygote, puisqu'il signale qu'il est AS. À savoir qu'il fait partie des porteurs sains des drépanocytoses. En général, les drépanocytoses de type AS, à savoir les drépanocytoses hétérozygotes, sont des drépanocytoses asymptomatiques qui ne provoquent aucun problème de santé. La drépanocytose, pour rappel, étant une maladie génétique du sang liée à la présence d'une hémoglobine anormale. Dans le cas de Papi, il semble avoir une hémoglobine normale et une hémoglobine anormale qui est S. En principe, cette forme AS est, et que je le dis encore, asymptomatique, donc logiquement ne devrait pas entraîner d'anémie. Mais il est évident qu'il y a certaines personnes AS que nous retrouvons en consultation qui se plaignent de douleurs, qui peuvent faire penser à des douleurs d'origine drépanocytaire. Parfois, on retrouve même d'ailleurs une anémie chez ces personnes-là. Mais il faut dire que ces douleurs et ces anémies-là ont souvent des causes autres que la maladie drépanocytaire. Et c'est pour ça que, à la question de Papi, est-ce que la drépanocytose hétérozygote de type AS peut entraîner une anémie? La réponse est non, elle ne peut pas entraîner une anémie. Mais n'empêche qu'une personne qui a une drépanocytose hétérozygote asymptomatique peut quand même avoir une anémie qui sera d'une autre cause que la cause drépanocytaire. Idem pour les douleurs dont la personne souffre, qui peut avoir des causes autres que la cause purement drépanocytaire. Voilà ce que je pourrais apporter comme réponse à Papi qui appelait depuis Kinshasa.
N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui est diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la fièvre typhoïde, une maladie contagieuse qui se transmet par l'eau et les aliments contaminés et qui affecte plus de 17 millions de personnes chaque année dans le monde. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Arsène Kalenga, médecin généraliste à Lubumbashi en RDC. Il nous a parlé des symptômes, du traitement et de la prévention contre la maladie. Nous avons également écouté le témoignage de Myriam Diedia, une victime de fièvre typhoïde. Elle a partagé avec nous son expérience et les conséquences qu'elle en a tirées. Enfin, nous avons écouté le témoignage de Jean-Paul, agent humanitaire à Beni, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Il nous a expliqué pourquoi la RDC est exposée à cette maladie et ce que font les ONG en cas d'épidémie. Nous leur disons tous merci.
Merci aussi à Georges Léonard Sagnot qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouizi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiro et Aiden Outko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Mamadou Oumfa et j'étais en compagnie de
Rosine Mounezero.
Restez à l'écoute de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.